bout du fil.
On termine avec l'arrivée du quintet à Enghien. Pour gagner, il fallait jouer le 17, le 16, le 6, le 13 et le 4. 17, 16, 6, 13 et 4. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2. Elle ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Loi du 9 décembre 1905. D'histoire. On imagine mal aujourd'hui la violence du conflit qui, il y a 100 ans, a opposé les partisans et les adversaires de la loi de 1905, séparant les églises et l'État. Un conflit oublié, mais qui, comme l'affaire Dreyfus, a profondément divisé en France en deux camps. Dans un pays qui était, disait-on, la fille aînée de l'Église, séparer les églises et particulièrement l'église catholique de l'État était considéré par certains comme un véritable sacrilège. Pour les autres, au contraire, il fallait mettre un terme à la toute-puissance d'un clergé omniprésent qui, pendant des siècles, avait sacré les rois de France et joué un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Français. De leur baptême à leur enterrement, à l'église ou dans les hôpitaux et les écoles religieuses, la population était encadrée par une église si puissante qu'elle pesait lourd dans la vie politique française. Et l'on comprend les passions déchaînées par la loi de 1905, même si aujourd'hui, et jusqu'au sommet de l'État, plus personne n'en conteste le premier article qui prévoit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
Liberté religieuse, que notre pays respecte et protège, ne saurait être détournée. Elle ne saurait remettre en cause la règle commune. Elle ne saurait porter atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est cet équilibre subtil, précieux et fragile, construit patiemment depuis des décennies, qu'assure le respect du principe de laïcité. Et ce principe est une chance pour la France. C'est pourquoi il est inscrit dans l'article 1er de notre Constitution. C'est pourquoi il n'est pas négociable.
Jacqueline Lelouette, bonjour.
Bonjour.
C'était Jacques Chirac le 17 novembre 2003 réaffirmant son attachement au principe de la liberté religieuse qui figure en tête de la loi de 1905 dont on célèbre le centenaire cette année. Vous-même, Jacqueline Lelouette, vous préparez, je crois, au seuil un livre important qui doit sortir dans quelques jours sur cette loi, dans quelques...
Début avril.
Sur cette loi, donc, il y a 100 ans, séparer les églises et l'État, et non pas l'Église et l'État, comme on le dit souvent, parce qu'elle ne concernait pas que l'Église catholique.
En effet, l'État entretenait des rapports avec plusieurs cultes, avec trois cultes chrétiens, le culte catholique, le culte luthérien et le culte réformé depuis la loi du 18 Germinal en 10, avril 1802, et puis avec le culte israélite depuis un décret napoléonien de 1808. Donc il y avait quatre cultes organisés sous l'égide de l'État.
Alors, cela dit, si les catholiques ont été les principaux adversaires de cette loi, c'est qu'ils représentaient la religion la plus importante, très pratiquée dans la France de l'Ancien Régime, mais aussi parce que c'était son clergé pesait très lourd, je l'ai dit, dans la politique. Sous l'Ancien Régime, il était même en mesure, au fond, presque de dicter, par le biais de l'école, par le biais de l'Église, en chaire tous les dimanches, de dicter, au fond, presque ce qu'il fallait penser aux Français, et parfois contre l'État, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, contre le roi, Jacqueline Lelouette.
Alors, ce que vous dites vaut pour l'Ancien Régime et la veille de la Révolution, je veux bien le croire, très certainement, mais pas pour les dernières décennies précédant la loi de 1905, puisque les lois de laïcisation étaient passées par là.
Oui, mais alors, sous l'Ancien Régime, il faut rappeler, parce qu'aujourd'hui on en est loin, la pratique religieuse n'est plus aussi intense que à cette époque, le poids de l'Église qui peut expliquer l'anticléricalisme qui va apparaître à la Révolution.
Sous l'Ancien Régime, effectivement, la religion catholique a été, sauf pendant le laps de temps correspondant à l'existence de l'édit de Nantes, la religion catholique a été la religion officielle du royaume, la religion du roi et de ses sujets, la seule qui pouvait être pratiquée effectivement.
Alors cela dit, l'Église la France était la fille aînée de l'Église, cette Église sacrée les rois de France, mais encore une fois, cette Église et son clergé pouvaient se dresser contre le roi ou contre un régime politique. Ce fut le cas pendant la Révolution française, lorsqu'en 1790 était votée la Constitution civile du clergé, prévoyant entre autres l'élection des prêtres, auxquels on demandait aussi de prêter serment à la Constitution, ce que refusait le pape, dont les protestations ont été transmises à Louis XVI par un envoyé du Vatican en 1790.
Sa sainteté n'est pas tolérée. Qu'on ait la prétention d'élire les évêques comme on élit des députés à l'Assemblée. Et c'est que sa sainteté voit avec plus de douleur encore. C'est que l'on veuille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments.
Assuré, Saint-Père, de ma loyauté personnelle, je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir ?
Louis XVI a bafoué la révolution par fidélité à Rome.
Ami du peuple, la dénonciation du roi Barbarin, demandez l'ami du peuple !
Suivant la maxime de l'évangile, ça ira. Tout législateur tout s'accomplira. Soit lui qui s'élève, on l'abaissera. Soit lui qui s'abaisse, on l'élèvera.
Ça ira.
Le vrai catéchisme nous inspirera. Et la peu de fanatisme s'éteindra. Pour être à la loi docile.
Ça ira.
Nous n'avons plus ni noble ni prêtre.
Ça ira.
L'égalité partout régnera.
Ça ira.
Les aristocrates à la lanterne.
Ça ira.
Les aristocrates, on les prendra.
Et c'était quelques extraits anticléricaux du fameux « Ça ira » chanté au début d'une révolution qui, un siècle avant la loi de 1905, était déjà très anticléricale, Jacqueline Lalouette.
Oui, il est inutile de rappeler ici les épisodes de la terreur et le nombre de prêtres et de religieux qui ont été envoyés à la guillotine et puis l'invention de nouveaux cultes, notamment le culte de la raison puis le culte de l'être suprême.
Sans parler, parce que c'était vraiment une atmosphère de guerre civile pour cause religieuse en grande partie, sans parler du soulèvement de la Vendée, des Chouans, c'est vraiment la question religieuse qui était au centre de cette révolution.
La question religieuse a été absolument fondamentale. Bon, vous avez parlé de la Constitution civile du clergé. Il faudrait peut-être rappeler pourquoi il y a une opposition à cette constitution civile du clergé et rappeler qu'on voulait faire élire les prêtres par des électeurs qui pouvaient pratiquer une autre religion que le catholicisme.
En tout cas, il y a vraiment un tel conflit de religieux, Jacqueline Lalouette, qu'au fond, c'est pour cette raison qu'en 1801, je crois, Bonaparte établit le concordat qui sera le régime qui va définir les rapports entre les églises et l'État pendant tout un siècle jusqu'à la loi de 1905.
C'est-à-dire qu'il y avait eu antérieurement une première séparation. Le clergé n'était plus salarié depuis 1794 et il y avait eu une première séparation définie officiellement par un décret, le 3 Ventôse, et puis par l'article 354 de la Constitution de l'an 3. Pour certains historiens, la pacification, elle était arrivée déjà avec cette première séparation. Et si on s'est acheminé vers la solution du concordat, c'est parce que Napoléon et son ministre Portalis, étaient convaincus de l'utilité sociale de la religion.
Alors le concordat, en deux mots, il faut peut-être rappeler en quoi il consistait, notamment l'État, au fond, pour compenser la perte de certains biens de l'Église, s'engageait à financer, c'est-à-dire à rémunérer les prêtres, à financer l'Église. Il y a aussi, il nomme les évêques, mais avec l'autorisation du pape, ou c'est l'inverse? Non, c'est le pape qui désigne les évêques.
C'est-à-dire, déjà pour le concordat, il faut rappeler que ce concordat est composé de deux grandes parties. La convention qui a été signée entre Bonaparte et Pie VII, qui reconnaît que le catholicisme est la religion de la grande majorité des Français, et par ailleurs, le pape s'engage à ne rien réclamer pour la nationalisation des biens du clergé qui était intervenu en 1789. Et puis par ailleurs, les articles organiques qui ont été votés sans l'accord du pape. Donc concordat, c'est un mot qui ne signifie pas la même chose pour l'État et pas la même chose pour l'Église. Alors cela dit, vous avez raison, les membres du clergé reçoivent un traitement de la part de l'État, et les évêques sont nommés par le chef de l'État, puis institué canoniquement par le pape.
Alors ce sera le régime qui va durer comme ça pendant un siècle, encore que sous la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, on voit réapparaître l'anticléricalisme qui avait disparu, même en 1848, ça n'a pas été une révolution anticléricale, mais à partir de la fin du XIXe, il y a un certain nombre de mesures sous la Troisième République qui évidemment provoquent une forte tension entre l'Église ou l'Église catholique, en tout cas, et l'État, la loi sur le divorce, la suppression du repos du dimanche, la laïcité à l'école au début des années 1880, et puis l'affaire Dreyfus, dont vous dites, et dont beaucoup d'historiens disent, qu'elle a vraiment relancé l'anticléricalisme et qu'elle est à l'origine, finalement, de la loi de 1905.
Alors, je voudrais tout d'abord dire que l'anticléricalisme a eu des épisodes très fréquents. Alors, pour l'affaire Dreyfus, on pourrait parler des heures de l'attitude des catholiques pendant l'affaire Dreyfus. Les catholiques, d'après un certain nombre d'historiens, notamment Jean-Marie Mayer, n'ont pas été marqués par un antisémitisme fort. L'opinion des catholiques, c'est l'opinion moyenne des Français, pourrait-on dire. On a prêté aux jésuites sans doute plus qu'ils n'ont fait, et si l'on lit bien l'ensemble des souscriptions pour des appréciations qui accompagnaient les souscriptions pour la veuve du colonel Henri, le nombre des prêtres qui a souscrit n'est pas si grand que ça.
Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre, il y a eu le journal La Croix qui était très anti-Dreyfusard.
En revanche, il y a La Croix et les Assomptionnistes, ça c'est sûr.
J'ai sous les yeux une phrase de Jaurès, justement après cette affaire, ou au moment de cette affaire, au moment où c'est terminé, il y a des crimes politiques et sociaux qui se payent, et le grand crime collectif, ça il a peut-être tort, commis par l'Église contre la vérité, contre l'humanité, contre le droit et contre la République, va recevoir enfin son juste salaire, c'est-à-dire des mesures anticlérical. Il y en a encore deux qui vont précéder la loi de 1905. Il y a en 1904 l'interdiction d'enseigner aux congrégations religieuses, et puis aussi la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, deux mesures qui sont décidées par un homme dont on parle beaucoup, qui est le petit père Combes, c'est-à-dire le premier ministre de l'époque, ou qui a été ministre des cultes, mais en tout cas on l'appelait le petit père Combes parce que c'est lui qui était vraiment la figure de proue de l'anticléricalisme, c'est un ancien séminariste.
Alors, Émile Combes, effectivement, avait été séminariste, élève d'un grand séminaire, et s'il n'était pas devenu prêtre, ce n'était pas de son fait, c'était le supérieur lazariste du grand séminaire où il étudiait qui avait pensé qu'il n'avait pas la vocation, qu'il ne pouvait pas devenir prêtre. Certains disent que l'anticléricalisme de Combes vient de cette exclusion forcée.
En tout cas, il est à l'origine d'un certain nombre de mesures anticléricales qui sont prises lorsque le bloc des gauches arrive au pouvoir. C'est surtout essentiellement une mesure prise par la gauche et qui fait voter, alors c'est plus sous Combes, mais c'est sous son successeur Rouvier, qu'est votée la loi de 1905, dont on retient surtout l'article 2, c'est-à-dire, je le répète, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ça veut dire donc que pour tout ce qui concerne l'ensemble des cultes, on ne rémunère plus les prêtres et que 42 000 prêtres en France n'auront plus pour rémunération que ce qu'on appelle le denier du culte, c'est-à-dire les quêtes.
Oui, alors d'une part, l'article 2, vous n'en avez lu que deux lignes sur
oui, mais on ne peut pas le lire en entier.
On ne peut pas le lire en entier, non, mais je dirais, il n'est pas donné intégralement. Et oui, les prêtres ne seront plus effectivement rémunérés par l'État, mais malgré tout, il y a eu une période de transition avec un versement de pensions et d'allocations.
Alors ça, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter pour l'Église. Alors c'est surtout c'est l'article qu'on retient le plus. Et on ne retient pas le premier qui finalement fait preuve d'une très grande tolérance et qui dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes ».
Sous les seuls, la seule réserve du respect de l'ordre public qui est défini dans toute une série d'articles ultérieurs. La liberté de conscience a été une question fondamentale pendant toute l'histoire de la France au XIXe siècle, à cause des difficultés rencontrées par les cultes qui n'étaient pas reconnus par l'État et parfois par les cultes minoritaires reconnus. C'est une question tout à fait fondamentale et on comprendrait mal cet article premier si on ne savait pas toutes les questions qui ont été posées par la liberté de conscience au XIXe siècle.
Il y a un autre article très important, je crois que c'est l'article 4, Jacqueline Alouette, qui prévoit que les biens de l'Église seront dévolus à des associations cultuelles. C'était quoi ces associations?
Alors, les associations cultuelles étaient destinées à remplacer les anciens conseils de fabrique qui avaient été institués par un décret de 1809, qui gérait les biens matériels des paroisses. À partir du moment où ces conseils de fabrique n'existaient plus, il fallait mettre à la place, c'est une suggestion qui est venue de Francis de Pressensé à l'imitation de certains modèles anglo-saxons, il fallait mettre à la place des associations qui pouvaient gérer ces biens cultuels.
Associations de fidèles, c'est plus le clergé qui est propriétaire au fond de ces biens.
Oui. Mais de toute façon, c'était déjà l'État, les départements et les communes qui étaient propriétaires depuis la Révolution. Le problème a été que la première version de l'article 4 semblait laisser toute latitude aux laïcs de diriger ces associations cultuelles. Et du côté de l'Église, on a craint que les laïcs ne prennent le pas sur les prêtres et on a craint qu'il n'y ait des associations schismatiques. D'où, pendant la discussion, à la suite de l'intervention de plusieurs républicains modérés, l'ajout d'une phrase qui dit que ces associations cultuelles devront se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles proposent d'assurer l'exercice.
Alors cela dit, pour évaluer les biens de l'Église, il fallait en faire l'inventaire, ce qui va provoquer des incidents graves à la porte des églises, comme à Sainte-Clotilde à Paris, où le préfet Lépine a eu le plus grand mal à faire entrer sa police dans l'église, défendue par des centaines de fidèles le 1er février 1906.
Mes hommes n'ont cessé d'être insultés et de recevoir des projectiles. Enfin, à 4h30 du soir, les gardes républicains ont enfoncé les grilles sous une grêle de coups et de pierres. Cette première enceinte emportée, l'accès de l'église n'était pas encore libre car les manifestants très nombreux s'étaient réunis derrière les portes de l'entrée principale et ils y avaient amoncelé des tas de chaises. Enfin, après une demi-heure de véritable bataille, j'ai pu pénétrer dans l'église avec mes hommes.
C'était l'ambiance à l'église Sainte-Clotilde en 1906, une véritable bataille à la porte des églises, à Sainte-Clotilde, comme dans d'autres églises de France, Jacqueline Lalouette. Ça a été vraiment ces inventaires, cette querelle des inventaires, comme on l'appelait, c'était dur.
Oui, les inventaires ont été effectivement violents dans certaines régions, beaucoup plus encore qu'à Paris, dans la Haute-Loire, dans la Lozère, et dans certains départements bretons, et également dans le nord de la France, dans la partie flamande. Il faut expliquer que ce qui a posé problème avec les inventeurs dont le vote avait été acquis facilement, c'est une circulaire du 2 janvier 1906 qui prévoit que l'on va demander aux prêtres d'ouvrir les tabernacles pour faire l'inventaire des vases sacrés. C'est les prêtres qui ouvrent, c'est pas les agents de l'enregistrement, mais l'affaire a été très très mal perçue. Et par ailleurs, il y a chez tous les paysans qui se montent contre les inventaires en Haute-Loire et dans les départements cités, le sentiment qu'on va voler ce qui a ce qui leur appartient, ce qui fait l'objet de leur tradition, de leur piété. Et puis, dans certains cas, notamment à Paris, il y a une volonté politique d'un certain nombre de gens, de militants de l'Action française et autres, de politiser l'affaire contre les vœux du clergé. Par exemple, le curé de Sainte-Clotilde que vous citiez, ou le curé de Saint-Sulpice, était en parfait désaccord avec la fidèle.
Puis Clémenceau veut apaiser les choses, il fait arrêter les inventaires, il ne veut pas, dit-il, risquer une vie humaine pour compter les chandeliers des églises. Oui. Alors, cela dit, finalement, ça passe, cela dit, le pape met de l'huile sur le feu. Il décrète, je crois, je ne sais pas si on dit décréter, une encyclique, Vehementer Nos, dans lequel carrément, il excommunie les députés, il y en a eu 341, qui ont voté la loi de 1905.
Ben, disons que le pape estime que la loi de séparation, effectivement, est une loi qui méconnaît absolument les règles fondamentales d'organisation de l'Église et le nécessaire accord entre le spirituel et le temporel sur la terre. L'encyclique Vehementer Nos ne se prononce pas de manière absolue et radicale contre la loi de séparation. Cela ne viendra qu'après, avec l'encyclique Gravissimo Officii du 10 août 1906.
Alors bon, cela dit, beaucoup de catholiques s'y résignent à cette loi, où il y a même Peggy qui finalement trouve que cette loi va permettre, somme toute, à l'Église catholique d'être plus indépendante. En ce qui concerne les autres églises, elles étaient plutôt favorables. Je parle évidemment des protestants ou des juifs.
Les protestants et les israélites ont été plutôt favorables à la loi, enfin ont été favorables à la loi au bout du compte, et il n'y a eu aucun incident de leur côté. Mais pendant longtemps, les luthériens notamment et les israélites étaient quand même relativement réservés, parce que pour eux aussi, il y avait un problème matériel qui se posait.
Alors, qui s'est posé dans toute la France, c'est-à-dire hors des départements, enfin qui n'étaient pas encore des départements français, c'est-à-dire en Alsace et en Moselle, des départements qui étaient allemands et qui, eux, ont gardé le régime du Concordat. Et il y a un problème qui s'est posé, bien sûr, c'est lorsque les trois départements d'Alsace, les deux d'Alsace et celui de Moselle ont été rattachés à la France. Qu'allait-on faire de la loi de 1905, puisqu'en 1905, ils étaient des territoires allemands, ils redeviennent français, et là, ce qui montre quand même une volonté de pacification, on leur laisse le système concordataire, si bien qu'aujourd'hui encore, les prêtres en Alsace, en Moselle, sont rémunérés par l'État.
Oui, alors on leur laisse, parce que le cartel des gauches n'a pas pu faire aboutir ses projets, effectivement. Painlevé, successeur d'Hériot, a dû renoncer. Et effectivement, encore actuellement, les prêtres sont rémunérés par l'État et les évêques sont nommés par le gouvernement, puis institués par Rome.
Et puis alors, la pacification est favorisée aussi en 1921, mais là je crois que c'était plutôt la droite et le bloc national qui étaient au pouvoir, par le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, après des années ça a été interrompu. Et puis alors, on ne parle plus tellement de la loi de 1905, les régimes passent. Les gouvernements passent, ils changent de couleur, mais dans l'ensemble, elle n'est plus tellement remise en cause, cette loi de 1905. Même sous Vichy, je crois, elle n'a pas été... Vichy n'a pas voulu revenir dessus, il y a eu peut-être quelques modifications.
Il n'y a pas eu de volonté d'abrogation, il y a eu quelques modifications relatives aux dons et aux legs.
Alors, cela dit, elle est parfois quand même remise en cause pour s'adapter à une situation nouvelle, hein, bien sûr, qui est l'émergence de l'islam en France, auquel Nicolas Sarkozy envisageait récemment une aide pour la construction de mosquées. Et on l'écoute le 18 novembre 2004.
Je ne veux pas qu'on ait dans les communes des lieux de prière qui soient intégralement financés par l'étranger, parce qu'on sait d'où vient l'argent et on sait ce qu'on en fera.
Eh bien, si on ne veut pas de ça, il faut qu'on réfléchisse à des possibilités, sans changer quoi que ce soit la loi de 1905, qui nous permettent de contrôler des lieux de culte, parce que les problèmes que nous connaissons en France, ils sont dans les lieux de culte clandestins, dans les caves, c'est dans les garages. C'est cela dont il faut débarrasser la France. Voilà la réalité. Voilà comment on pourra avoir un islam de France et non pas un islam en France. Et la différence, elle pèse lourd.
Et c'était Nicolas Sarkozy le 18 novembre 2004, affirmant à la fois qu'il ne faut pas toucher à la loi de 1905, mais en même temps qu'il se propose de l'aménager de manière à ce qu'on puisse financer au fond la construction de mosquées. C'est quand même une entorse, au moins à l'article 2 de la loi de 1905, Jacqueline Alouette.
Oui, effectivement, c'est une entorse. Personnellement, en tant que citoyenne, je ne sais pas trop que penser de cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de moyens, non pas de tourner, mais d'aménager cette interdiction posée par l'article 2, et notamment par la possibilité de consentir aux communautés cultuelles, de la part des communes, des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux de 99 ans pour établir des édifices du culte.
Parce que c'est aussi un motif de conflit entre lui, le président de l'UMP, et le président de la République, qui lui, en revanche, affiche son intention de ne pas y toucher à cette loi. Est-ce que quand même l'évolution de la société française, et notamment l'émergence de l'islam, inversement aussi la baisse importante de la pratique religieuse, les difficultés également que rencontre l'Église catholique, il s'agit d'elle, est-ce que ça n'amène pas quand même à la nécessité d'aménager cette loi qui a un siècle aujourd'hui?
Je vous ai déjà dit que personnellement, en tant que citoyenne...
Vous êtes contre, mais est-ce que justement...
Non, je ne suis pas contre, je suis... très partagé et très je m'interroge très sincèrement sur sur ce qu'il convient de faire dans ce genre de nouveau paysage à la française.
Parce qu'après tout, elle avait mis un terme à un système qui a duré un siècle, qui était le Concordat, et nous voici un siècle après la loi de 1905.
Oui,
aujourd'hui.
Oui, effectivement, 100 ans après, on se demande s'il ne va pas falloir réfléchir à une nouvelle organisation et à de nouvelles dispositions pour éviter les inconvénients signalés par Nicolas Sarkozy.
Vous y êtes en tout cas très attaché, hein, Jacqueline Alouette, on l'aura compris, à cette loi dont on célèbre en ce moment le centenaire. Je rappelle que justement, c'est aujourd'hui la séance solennelle d'ouverture de ce centenaire à l'Académie des sciences morales et politiques, est en présence de Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, donc ce qui prouve que l'État la défend toujours, cette loi. Vous êtes, je rappelle aussi, l'auteur d'un livre qui doit paraître début avril aux éditions du Seuil, La séparation des églises, on a bien insisté là-dessus, des églises et de l'État. À lire également parmi les nombreux ouvrages qui viennent de sortir, L'Église et l'État en France, 1905, la crise de la séparation de Maurice Larquin, publié aux éditions Priva, 1905, la séparation Église-État, publié aux éditions Cana, La séparation des églises et de l'État, de Jean-Marie Mayer, publié aux éditions de l'Atelier. Enfin, 1905, La séparation des églises et de l'État, évidemment le titre est toujours un peu le même. Les textes fondateurs, là il s'agit du texte de la loi de 1905, un livre présenté par Dominique de Villepin et publié aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Vous avez pu entendre un extrait du film La Révolution française de Robert Henrico, ainsi que du documentaire La laïcité dans la série Les grandes batailles de la République de Jean-Noël Jeannet et Olivier Duhamel, réalisé par Bernard Georges et diffusé sur la 5e en 1996. Ces références, il y en a beaucoup, sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tessier et Violaine Ballet, ainsi qu'à...